Divergence FM, l'interview.
Bonjour chères auditrices, chers auditeurs. Alors nous sommes juste à côté de l'Opéra Comédie avec le chef d'orchestre Victor Jacob. Bonjour Victor Jacob.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors nous nous étions déjà rencontrés quand vous étiez venu pour Crowd Out.
Ouais. Hein,
un événement, on pourrait dire.
Ah bah oui, ça c'est pas tous les jours.
Une sacrée expérience avec quand même, il y avait 900 choristes.
Oui.
Il va y en avoir 1000, mais il y en avait 900.
Oui, allez, plus de 900, je crois. Plus de 900. je n'ai pas pu les recenser.
Voilà, vous les connaissez pas tous par leur petit nom.
Presque.
Voilà. Donc c'était quand même une expérience particulière. Et puis là, donc ce samedi 9, bah, vous serez à l'Opéra Comédie à 20h avec. Aussi de la musique chorale,
ouais.
Puisqu'il y aura le Gloria de Francis Poulenc.
Absolument.
Chœur. Et puis il y aura aussi, alors là, l'activité plus classique de chef d'orchestre avec une œuvre symphonique.
Mm-hmm.
Hein, le
symphonie 40 de Mozart.
Rabâché et célébrissime, ouais. 40e de Mozart.
Tout à fait.
Rabâché, ce qui n'est pas péjoratif.
Non, bah, j'espère
elle,
pas.
Elle mérite d'être rabâchée, disons-le
franchement. C'est tout simplement magnifique. Hein.
Voilà. Et puis, une découverte, hein. Là, on a remonté le programme un peu à l'envers, avec Charlotte Seuilly. Donc, on va aussi parler de Charlotte Seuilly, on pourrait dire presque une résurrection, et encore, plus qu'une résurrection,
non, mais tout
une
à
découverte
fait.
Complète. Hein.
Tout à fait, dont nous ne sommes pas tout à fait à l'origine. On doit bien sûr rendre hommage à l'Orchestre d'Avignon, qui a donc enregistré sa musique récemment, à Deborah Wallman, qui l'a dirigée. Et c'est, voilà, moi, c'est comme ça que j'ai découvert cette compositrice, qui a été joué de son vivant quand même, mais ensuite complètement oublié. Et je suis ravi de pouvoir exhumer un tel talent, d'aider en tout cas à exhumer un tel talent et une telle pièce, puisque on prend beaucoup de plaisir. Alors pour tout vous dire, on la répète en tutti, c'est-à-dire tous ensemble, l'orchestre et Lucie Peramor, notre magnifique soprano, ce soir. Donc j'en saurai plus après la répétition de ce soir.
Nous sommes à J-2 du concert.
J-2, absolument. Et en fait, ce qui est frappant c'est chez Charlotte Seuilly, c'est déjà la beauté du texte et comment elle passe tout le temps du caractère profane au caractère sacré. Elle commence les trois mouvements donc qui sont paix, joie et confiance.
Voilà, c'est un cycle, pour préciser, qui s'appelle, ouais, Méditation.
Les Méditations de Charlotte Seuilly, absolument.
18.
Oui, c'est vrai. Donc, voilà. Trois titres très évocateurs, paix, joie et confiance, qui passent à chaque fois du profane au sacré. Déjà, j'ai beaucoup aimé ce concept. C'est aussi quelque chose qui m'a fait beaucoup penser à Poulenc, parce qu'on va en parler ensuite, j'imagine, mais Poulenc, pour moi, a ces deux casquettes-là aussi, d'un compositeur totalement profane et totalement sacré aussi en même temps. Charlotte Seuilly, c'est donc, je le disais, une musique qui est très très plaisante parce qu'elle évoque beaucoup de choses et l'orchestre colle totalement aux émotions du texte avec une écriture orchestrale et pianistique puisqu'elle l'a écrit pour piano et c'est son petit-fils qui l'a orchestré. Donc voilà, des couleurs orchestrales qui collent totalement au texte et ça c'est toujours un plaisir à faire avec en plus une chanteuse comme Lucie Peramor qui a une exceptionnelle diction, je trouve je pense qu'on va faire quelque chose d'intéressant.
D'accord, oui. Oui, c'est une pièce qui date de 1922, donc on est. Poulenc commence à écrire.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
À la même époque.
Ouais.
Et puis, bon.
Mais je dirais plus que Charlotte Seuilly a été peut-être inspirée par les couleurs de Bussiste quand on écoute sa pièce. Moi, je vois beaucoup de similarités avec Péléas et Mélisande, l'opéra de Debussy, que ce soit dans même des petits motifs ou alors des harmonies. Également les thèmes qu'elle utilise, le thème de l'eau, des choses très, très, très simples, mais qui sont très présentes dans la musique de Debussy. Et voilà, c'est un plaisir de trouver des échos, tout en ayant évidemment sa personnalité propre.
Oui, voilà. Je lisais justement des historiens de la musique qui disaient elle a un peu disparu de la circulation, justement quand la mode du debussisme a un petit peu passé, elle n'avait pas une notoriété telle qu'elle a pu survivre à ce à ce changement de mode.
Oui, et puis n'oublions pas que c'était une femme. j'ai bien peur que ça a été quand même très, très... que ça a penché dans la balance, tristement.
Oui, comme pour beaucoup de compositrices que l'on redécouvre.
Bien sûr, bien sûr. Hein. Et c'est génial, c'est super.
Après les Mel Bonis, Cécile Chaminade et tant d'autres.
Bien sûr.
Voilà, maintenant, Charlotte Seuilly. Alors, c'est un nom d'emprunt, hein, je crois.
Ah, je ne savais pas.
C'est pas son nom de naissance.
Très bien.
Le nom d'un grand-père ou quelque chose.
D'accord, dit, voilà. Merci de l'information.
Voilà, donc ces méditations, c'est son opus 18, une œuvre qui date de 1922.
22, oui.
Voilà, ça situe bien dans le... Voilà, on est dans le Debussyisme, là.
Oui.
Peut-être la fin, mais bon, Ravel est encore là.
Bien sûr. Mais de toute façon, tout ce 20e siècle français est absolument épatant de créativité et de composition orchestrale, notamment, vocale. Enfin, il y a tellement de choses qui se sont faites à cette époque que ça ne m'étonne pas qu'on trouve encore aujourd'hui des compositeurs qui ont écrit des choses à cette période. Donc voilà, cette émancipation a été très très belle pour toute la France ici et l'entre-deux-guerres.
Voilà, donc ne serait-ce que pour cette œuvre-là, j'ai envie de dire, une très très bonne raison de venir écouter.
Ah mais absolument, alors ça dure seulement une quinzaine de minutes, mais les trois mouvements sont très 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 riches, avec plein de choses à entendre, donc ça vaut le coup de venir rien que pour ça, oui, je vous le confirme. Mm-hmm. Même si vous avez trop entendu la 40e de Mozart, mais qui sera, je vous le rassure,
oui, unique. Non, mais on peut la supporter quand même.
Bah, j'espère bien, et est-ce que vous sauriez me chanter les thèmes des quatre mouvements?
Ah, comme ça, non, là.
Eh ben voilà, je pense que peu sont les auditeurs.
En concert, je pourrais les rechantonner dans ma tête.
D'accord.
En même temps,
bon.
Ça c'est sûr.
Très bien, très bien.
À froid, comme ça sera un petit peu difficile. Et donc, voilà, la 40e de Mozart. Hein, pas la peine de dire grand-chose dessus.
Non, à part que...
C'est une œuvre célébrissime et méritée.
Oui, à part que moi, j'aime beaucoup jouer Mozart avec la musique française, et en particulier Poulenc, dans sa franchise d'écriture. C'est ça que j'aime dans Mozart, et c'est ça que je retrouve aussi dans Poulenc. Il y a quelque chose de droit, de franc, avec des thèmes ciselés, et c'est ça que j'aime retrouver dans ces deux répertoires. Donc, j'aime beaucoup les associer.
Voilà. Et puis là, Mozart, il n'y a pas de voix dans la 40e symphonie, mais je sais que c'est quelqu'un qui savait écrire pour la voix et y compris pour les chœurs aussi.
Tout à fait. Bah, et ses messes sont absolument splendides, et sans parler de son Requiem.
Voilà. Alors, on va en venir à la deuxième partie du concert. Hein, donc Charlotte Seuilly et Wolfgang Amadeus occuperont la première partie. Et puis, deuxième partie, ce sera Francis Poulenc. Mm. Compositeur qu'on connaît, j'ai envie de dire qu'on sous-connaît peut-être en France, j'ai le sentiment.
Je pense que,
bon,
oui.
On connaît un peu l'histoire de Babar.
Ah oui, vous diriez que c'est un de ces... Ouais.
Élevé avec l'histoire de Babar.
Ouais.
Mais, et puis, bon, il y a la voix humaine, il y a la,
ouais. Le dialogue des Carmélites.
Le dialogue des Carmélites.
Qui est assez joué, oui.
Bon, il y a quand même un certain nombre d'œuvres. Mm. Mais je n'ai pas l'impression que c'est un compositeur que... Les mélomanes, oui, mais peut-être que le grand public...
Non, effectivement.
Met comme ça en avant, comme des grands compositeurs français.
Oui, alors là, pour le coup, je vais m'inscrire très...
très en faux.
Très en faux là-dedans. Moi, je suis totalement admiratif de son génie, de son originalité harmonique notamment, qui en fait un compositeur pour moi exceptionnel. Alors, vous parliez des voix, des chœurs, et vous me demandiez à demi-mot pourquoi je dirige souvent des chœurs. Moi, j'étais choriste. Quand j'ai commencé à la maîtrise de Radio France, j'ai été ensuite choriste professionnel une fois adulte aussi, avant de diriger ou pendant mon début d'activité en tant que chef. Et donc j'ai évidemment ce goût, et j'ai aussi, pourquoi Poulenc ? Parce que moi je l'ai découvert avec sa musique a cappella, les 7 chansons, voilà, plein de motets ou autres qu'il a écrit, d'ailleurs profane comme sacré, hein, il écrit totalement des deux, c'est là aussi où je le rejoignais, je le lis avec Seuilly comme je disais avant. Donc Poulenc, pour moi, c'est ça. Et je parlais de franchise, je parlais de choses vraiment ciselées. Moi, c'est ça que j'aime dans Poulenc. C'est quelque chose d'une écriture ouverte pour le public. Voilà, c'est écrit, c'est... comment dirais-je ? C'est dire à exprimer. Mais rien que ses harmonies, il n'invente rien. Il n'invente pas de notes, il n'invente pas de mode de jeu, il n'invente pas des accords incroyables. Il ne fait que rajouter des tierces comme ça, de superposer des tierces et faire s'enchaîner deux accords qui n'ont rien à voir, mais tout en créant son propre style. Et c'est ça que j'aime beaucoup.
Ça donne, est-ce qu'on pourrait dire que ça donne une certaine évidence à sa musique, ce qui ne veut pas dire qu'elle est simpliste.
C'est un très beau mot, évidence. Merci de m'aider sur ce vocabulaire. Absolument, évidence, c'est exactement ça. Et quand on l'a comprise, évidemment, quand on la lit, c'est une musique qui est assez dure à lire, assez difficile à lire, parce que ce soit un score, c'est-à-dire une partition d'orchestre, une partition chorale, ces harmonies ont tellement peu l'habitude d'être mises les unes à côté des autres que ce n'est pas comme Mozart, où quand on regarde une partition, on comprend très vite le chemin harmonique. Dans Poulenc, c'est beaucoup plus alambiqué, mais il a ce talent pour faire de quelque chose d'alambiqué quelque chose de finalement très cohérent et très simple.
Oui, mais quand vous dites ça, tout d'un coup, je me dis, mais c'est certaines œuvres de Stravinsky sont aussi dans cette...
Oui.
Complexité évidente.
Absolument, sauf que, tout à fait, alors c'est pas le même résultat sonore, puisqu'on est sur un autre univers totalement, mais c'est oui, le même principe. Ouais.
Alors, c'est, vous évoquez le profane et le sacré hein, chez lui, alors effectivement, on a évoqué la voix humaine, dialogue des Carmélites, on pourra parler des biches aussi, voilà, qui sont des œuvres profanes, et puis y a quand même eu quelques œuvres sacrées, hein. Il y a ces litanies à la Vierge Noire,
magnifique,
qui sont dans les années 30, avant la guerre, et puis un Stabat Mater aussi.
Ah, le grand jumeau du Gloria, ouais.
Et puis ce Gloria, hein, pour prendre les œuvres importantes. Comment vous caractériseriez cette musique sacrée de Poulenc? On évoquait Mozart, bon, musique sacrée Mozart, on a tout de suite le Requiem ou le Messe qui nous viennent en tête, ou la Veuve Rerum. Poulenc, comment vous la caractériseriez,
alors,
cette musique entre guillemets sacrée? Je ne sais pas si c'est le bon terme.
Alors,
pas une musique liturgique, forcément.
Moi, j'y vois beaucoup de sacré, mais j'y vois un sacré qui touche l'âme humaine, qui c'est pas un sacré inaccessible, c'est un sacré que... auquel tout le monde peut avoir accès. Je dis ça parce que c'est très varié. Il a réussi à trouver dans ses mouvements des atmosphères extrêmement différentes. Si on pense au dernier mouvement, tout doux, avec ses accords de neuvième qui se baladent comme une espèce de brume bienfaisante. Probablement, il pensait à Dieu quand il écrivait ça, mais on peut penser à n'importe quoi. On peut penser à un parfum de bonne nourriture qui arrive de la cuisine un soir d'hiver, voyez. Donc moi, c'est ça qui me touche chez Poulenc, c'est que il arrive à écouter, à partager sa ferveur avec tout le monde, avec un langage accessible justement à tout le monde. Et il va aussi tout simplement nous écrire un mouvement beaucoup plus léger, beaucoup plus profane, avec des guillemets, puisque pour lui, ça évoquait quand même le texte du Gloria. On peut pas dire qu'il a utilisé le texte du Gloria sans y croire. Non, ce qu'il a écrit, même quand il écrit Laudamus te, et ben pour lui, ça évoque, c'est la musique qui lui parlait quand il disait ce Laudamus te.
Alors, quand vous en parlez, là, tout à l'heure, ce que vous disiez me faisait penser à Stravinsky. Là, ça me fait penser tout d'un coup à la petite messe solennelle de Rossini.
Ah, ben oui, c'est vrai.
Il y a une parenté pour vous entre les deux. Sinon de style, du moins d'esprit.
D'esprit, ouais, c'est tout à fait vrai, même avec l'instrumentarium de la petite messe.
Réduit.
Ouais, très réduit, l'accordéon auquel on ne va pas penser du tout pour oui, non, mais c'est tout à fait juste, ouais. Bah, Rossini, ouais, on retrouve cette chose très accessible une fois plus, quoi. On va pas personne en venant au concert, et je vous invite donc à venir samedi, personne ne se sentira mis sur le côté par cette musique.
Mmh. Oui, puis il y a une espèce de... à la voix de la ferveur et de la joie.
Absolument.
Merci beaucoup, Victor Jacob. Donc, nous rappelons un beau, beau programme. Hein. Samedi 9, ça se passera à l'Opéra Comédie à 20h avec Charlotte Seuil à découvrir avec sa méditation. Et puis, la 40e de Mozart, pour vous rassurer de retomber sur quelque chose de familier, si je puis dire. Et puis la deuxième partie avec ce magnifique Gloria de Francis Poulenc.
Absolument.
Merci.
Merci
bonne
à vous.
Dernière répétition et bon
merci,
concert.
Merci beaucoup.